Les titres du journal.
Frédéric Borloo se verrait bien au gouvernement vaudois. Le conseiller national et ancien syndic d'Aigle se présentera devant son parti au congrès du 22 septembre prochain. Joli succès d'estime ce week-end à Aigle pour le festival 1.1, un festival dédié à la santé par l'alimentation. Yves Terrani est allié premier son micro écho dans ce journal. L'édition 2021 de la course à pied La Montézanne s'est terminée. Comme l'an dernier, Covid-19 oblige, c'est un concept revisité qui a été proposé. Mais la philosophie, elle, n'a pas changé, contribue à créer du lien avec les femmes qui se battent contre le cancer. En football, la saison du Lausanne Sport est lancée. Devant son public hier, la formation vaudoise a décroché son premier point en championnat. Et en tennis, Jill Teichmann sort d'une semaine de rêve à Cincinnati.
Côté météo, le soleil va rester de la partie cet après-midi et demain. On fait un point complet après le journal. Le journal de la mi-journée avec Margot Reguin. Bonjour.
Bonjour. Frédéric Borloo se verrait bien candidat au Conseil d'État vaudois. Le conseiller national et ancien syndic d'Aigle entre dans la bataille pour le château en mettant en avant son expérience dans tous les échelons de la politique cantonale et fédérale. À l'heure où un vent de changement souffle sur le PLR Vaud après le renoncement des deux sortants, Philippe Lebas et Pascal Broulis, Frédéric Borloo se lance, conscient de faire partie de la génération de ceux qui partent.
Effectivement, je serai candidat au Conseil d'État, d'abord à la candidature, et si mon parti veut bien, au Conseil d'État.
Alors, vous faites partie de la génération de ceux qui s'en vont du Conseil d'État aujourd'hui, Pascal Broulis, Philippe Lebas, ça a fait partie de votre réflexion?
Alors oui, bien sûr, à savoir, est-ce que vraiment on veut du changement, ou bien on veut du changement et du renouvellement à la fois, et puis donner un grand coup de sac? Moi, je pense que c'est plutôt une chance, j'ai de l'expérience dans beaucoup de domaines, j'arrive avec un capital, disons, qui me donne des compétences, des capacités d'affronter beaucoup de dossiers. Et puis, en plus, je pense que dans la région, ici, j'ai appris à connaître les différences, j'ai appris à rassembler, j'ai appris comme syndic du chef-lieu à m'investir dans des dossiers qui ne concernaient pas directement ma commune. On a fait l'agglomération, donc j'ai cette sensibilité un peu de ville, mais aussi, bien entendu, de zone un peu reculé par rapport à Lausanne. Alors si je peux contribuer un tout petit peu à rapprocher ces zones reculées finalement du centre vaudois, on a déjà gagné quelque chose.
Les stratégies, combien de candidats, qui est candidat, tout ça, ça se décidera en congrès, donc c'est prématuré d'en parler. D'un point de vue personnel, vous quittez après de nombreuses années la commune d'Aigle et la syndicature pour les dernières années. Vous êtes conseiller national. Qu'est-ce qui alimente la réflexion d'un Frédéric Borloo pendant l'été pour se dire j'y vais ou j'y vais pas?
Eh bien, alors bien sûr, beaucoup de choses. Ceux qui me connaissent savent que j'ai des activités professionnelles. J'ai toujours gardé des activités professionnelles assez denses et donc je peux y retourner facilement. Et puis en même temps, toutes ces années de politique, toute cette expérience que j'ai acquise me fait penser aussi que cette dernière étape, cette étape-là, si j'essaye pas de la franchir, c'est un petit peu comme si je m'arrêtais au milieu du guet. Et puis qu'il me reste encore un peu de corde à tirer, mais je laisse la barque aller à volo. Alors c'est pas mon genre, d'une part. Et puis ensuite, comme je l'ai dit, je pense que j'ai un certain bagage qui pourrait aider le canton, notamment dans cette zone un peu, ce grand Est vaudois qui est magnifique et puis qui nécessite de se rassembler derrière les grands projets pour être plus écouté.
Il y a déjà une candidature chablaisienne, le député Sergueï Ashvanden. On discute pas dans l'Est vaudois pour se coordonner, pour décider de garder les forces dans la région?
Alors oui, effectivement, nous avons discuté ensemble. J'ai d'ailleurs discuté avec l'ensemble des candidats qui sont aujourd'hui annoncés, plus ou moins annoncés, y compris avec Monsieur Ashvanden. On s'entend très bien, on se connaît depuis qu'il a commencé la politique. Alors après, c'est son choix. Je veux dire, s'il a envie d'y aller, c'était un peu sa décision de se présenter. Dans le fond, quoi qu'il arrive, c'est vraiment son choix. Il faut le respecter. Et je pense que c'est une démonstration que notre parti est bien vivant et puis que les candidats ne manquent pas.
Frédéric Borloo répondait à Florian Barbet. Le congrès du PLR choisira sa stratégie et ses candidats le 22 septembre prochain. Trois autres candidats se sont déjà déclarés. La ministre sortante Christelle Luizier-Brodard, la conseillère nationale Isabelle Moret ainsi que le député Sergueï Ashvanden. La police vaudoise appelle à la prudence en cette semaine de rentrée scolaire. Elle précise aujourd'hui que ses agents marqueront une présence visible à travers tout le canton. Ils effectueront notamment des contrôles préventifs à proximité des établissements scolaires. La police vaudoise souligne aussi qu'elle participera activement avec les polices communales à la campagne nationale de sécurité routière. Attention, un enfant, ça surprend. Cette dernière est portée par le Bureau de prévention des accidents, le BPA.
Utiliser la cuisine comme moyen de thérapie.
Pour se retrouver, s'écouter, apprendre à développer ses sens et ainsi indirectement à respecter l'environnement. Tel était l'objectif poursuivi par le festival 1.1 qui s'est tenu de vendredi à hier à Aigle sous l'étiquette La santé par l'alimentation. Patrick est venu de Maracon dans le canton de Vaud pour vivre de l'intérieur ce festival. Il nous dit ce qui l'a attiré sur les terrains du domaine bio de la Pérole.
L'attrait pour les belles choses mises en commun. Les collectivités, les regroupements, les mises en lien, l'attrait grandissant pour des cultures naturelles, la permaculture, les liens intergénérationnels, toutes ces choses naturelles et organiques que nous avons perdues et qui augmentent l'amour dans la société, qui augmentent le lien, et c'est profondément régénérant, vitalisant tout ça. Et ça me plaît de voir tout ça, tout ce qui se passe. Ça me plaît surtout beaucoup de voir l'émergence de tous ces jeunes qui savent déjà les choses et qui s'activent, qui créent des choses. Voilà ce qui m'amène ici.
Ce festival était organisé par Jonathan Cibot et son équipe. Lui vient du monde du tennis, mais il a cœur de rendre conscient les gens autour de lui, et notamment les festivaliers de ce week-end, du bien-être physique et psychique qu'ils peuvent retirer d'une alimentation saine. Et comme Patrick entendu à l'instant, Jonathan Cibot a été séduit par la participation des jeunes à son festival.
Les tout jeunes, là je vois des petits qui ont par exemple des brins d'herbe dans leurs cheveux, de la déco qui est faite à partir de produits naturels du terrain. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore la conscience comme quoi il y a un problème et qu'il faut faire quelque chose. Mais on peut déjà leur donner 2-3 pistes en leur mettant en avant des façons drôles de voir la vie avec des choses qui sont de la région. Genre avec des brins d'herbe, avec des petits animaux, des insectes à découvrir. Et ils voient qu'on peut s'amuser avec pas grand-chose, quoi. Après, les moins jeunes, on va dire 13-14, il y a eu des chanteurs hier qui sont venus. C'était Tess qui menait le bal. Et on a fait un interview dans un bain, c'était le bain interview. Et ils avaient tellement de conscience sur le temps qu'ils passaient sur leur téléphone, le Covid, ce que ça leur a permis de percevoir, la façon dont on gère le monde actuellement. Donc oui, ils sont là, ils sont conscients. Et ils ont envie de changer plus que tout leur comportement et ceux de leurs parents aussi. Parce que finalement, quand on est jeune, j'ai l'impression que c'est facile de s'adapter. Quand on a pris l'habitude d'avancer d'une certaine manière et qu'on prend de l'âge, ça demande un petit effort, j'ai l'impression, supplémentaire de changer, mais on peut le faire.
Et Jonathan Cibot l'assure, il y aura une nouvelle édition de son festival. Ce sera la version 1.2. Reste à trouver le thème, le lieu et les dates.
Partager un moment ensemble sous les couleurs de la Montézanne.
Comme en 2020, pas de parcours de course à pied sécurisé, Covid-19 oblige, mais un rassemblement au stade du Vernet hier à Montet pour déguster une paella ou une raclette et boire un verre. Le concept si loin, si proche a donc à nouveau été mis en place. Pour mémoire, il permet de courir, marcher ou pratiquer le Nordic Walking sur plusieurs mois pour venir en aide via un don à l'association La Montézanne, laquelle participe à la lutte contre le cancer des femmes tout en contribuant à sortir celles-ci de leur isolement, donc de créer du lien à quelque part, ce que nous confirme la présidente de l'association, Magali Lambert.
Exactement, c'est ça, c'est tellement important de garder les liens, c'est tellement important pour les gens qui ont envie de montrer aux personnes qui se battent contre ce fléau qu'est le cancer, qui sont là, que notre soutien est là. L'association La Montézanne, mais quand même les ateliers tout au long de l'année. La course, c'est vrai que c'est un événement phare de l'association, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses à côté. Et tisser des liens, c'est ce qu'on fait le mieux, c'est aller voir ces personnes malades, être tous ensemble. C'est toujours des moments qui sont riches et forts de sens. Et pour nous, c'était vraiment important de montrer aujourd'hui que malgré le Covid, nous on est là et on pense à toutes ces personnes qui se battent contre ce cancer.
Alors la course, c'est aussi une manière de récolter un peu de fonds que vous mettez à disposition, notamment de la lutte contre le cancer. 2 ans de suite comme ça, c'est un peu dur financièrement?
Oui, c'est sûr que c'est un petit peu dur. Maintenant, les ateliers fonctionnent. Il y en a eu l'année passée, il y en a cette année. L'année prochaine, on aura 10 ans. Donc l'année prochaine, pour les 10 ans de la Montézanne, il y aura vraiment plein de magnifiques ateliers. La fête sera belle au mois d'août. Vraiment, ça va être magnifique.
Deux mois de ces ateliers peut-être. Ils se poursuivent, hein, vous l'avez dit, tout au long de l'année. Et ça marche bien. Vous essayez de faire quoi à travers ces ateliers?
Ces ateliers sont vraiment là pour permettre à une femme malade de renouer justement, de tisser des liens avec la société. Parce qu'on s'est rendu compte qu'une femme malade, elle se sent vite isolée par la maladie. C'est-à-dire qu'elle se trouve souvent dans le milieu médical. Et puis hors du milieu médical, eh bien, c'est un peu compliqué pour elle de se prendre en main, de se dire, bah, tiens, je continue quand même d'aller faire un petit cours de Nordic Walking, ou je vais m'initier à un cours de vitrail, ou de dessin, ou d'escalade, enfin que sais-je. Donc nous, on permet ça en fait. C'est gratuit, tout le monde peut venir, malade ou pas, finalement, c'est égal, parce que le but, c'est que ces personnes soient incluses dans un groupe et que l'on puisse partager un bon moment tous ensemble. Donc oui, ça, c'est vraiment important.
La fréquentation est bonne ?
La fréquentation est super bonne. Tous les ateliers sont généralement complets.
La Montézanne reviendra en 2022, elle reviendra plus forte qu'avant?
Alors en 2022, la Montézanne fêtera ses 10 ans, donc il y aura beaucoup d'ateliers qui seront mis sur pied, des choses vraiment magnifiques, des nouvelles choses comme des créations de bijoux, enfin plein de belles choses à partager ensemble, et puis on espère évidemment pouvoir enfin se réunir au mois d'août 2022 ici à Monté pour faire une immense fête tous ensemble pour ses 10 ans.
Deux ans sans, vous ne cédez pas au découragement?
Non, alors on va rien lâcher, bien au contraire. Au contraire, on continue de montrer à ces femmes malades qu'on est là, qu'on les soutient et non, on lâche rien, ça c'est clair.
Précisons que l'association La Montézanne organise aussi tout au long de l'année divers ateliers proposant une initiation à l'escalade. L'un d'eux aura d'ailleurs lieu aujourd'hui. Plus d'informations sur www.lamontezanne.ch. Un sujet signé Yves Terrani. Depuis ce matin, le géant jaune teste une poste en libre-service près de la gare de Lausanne. Le local permettra aux clients d'accéder à une sélection de services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils seront aidés par une collaboratrice de la poste les deux premières semaines. Un bilan sera tiré au terme de l'essai le 31 mars prochain. Les consommateurs doivent pouvoir faire plus facilement le choix des pains d'origine locale. Pour les aider, Pain Suisse a lancé aujourd'hui une marque permettant une meilleure transparence. Pour l'obtenir, il faut qu'au moins 80% des matières premières proviennent du territoire helvétique. Le traitement doit se faire à 100% en Suisse.
Les jeunes socialistes qui portent l'initiative 99% sont malmenés dans la campagne en vue de la votation du 26 septembre.
Les comités d'opposants se multiplient, les adversaires rivalisent d'ingéniosité pour attaquer non seulement l'objectif de vouloir surtaxer le 1% de la population la plus riche, mais aussi sur la forme de l'initiative. Le conseiller national PLR Genevois Christian Luchère a qualifié l'initiative de mensongère, mal fichue, écrite sur un coin de nappe de bistrot au terme d'une soirée arrosée. Comment les jeunes socialistes vivent-ils la virulence des attaques? Le vice-président roman Thomas Bruchet.
Ce qui se passe souvent, c'est que finalement, quand les adversaires d'une initiative ou d'un autre projet ne savent pas quoi dire par rapport au contenu, ils attaquent le messager ou ils attaquent la forme. Et c'est ce qu'on voit actuellement. C'est-à-dire que nos adversaires essayent de tout faire pour ne pas parler du sujet de l'initiative, qui sont les inégalités en Suisse et comment les combattre. Et par conséquent, ils vont dire voilà que l'initiative est mal rédigée, ils vont inventer des arguments sur d'hypothétiques PME qui pourraient être touchées, etc. Tout ça pour éviter de parler du réel contenu.
Les initiants ne doivent-ils pas reconnaître que la surtaxation des gains en capital avec un plancher à 100 000 francs de gains affectera davantage que le 1% de la population? On retrouve Thomas Bruchet.
Non, absolument pas. Dans la mesure où, pour avoir des revenus du capital de plus de 100 000 francs par année, il faut posséder une fortune placée, investie de 3 millions de francs. Et des personnes qui possèdent une telle fortune, il y a environ 1% de la population qui possède une telle fortune. C'est des arguments, justement, que la droite, que les lobbies économiques utilisent sans cesse pour essayer de faire croire à une majorité de la population qu'elle serait potentiellement touchée ou qu'elle pourrait être touchée si elle venait à avoir un peu plus d'argent. C'est des arguments qui sont tout à fait fallacieux.
Et il y a encore cet exemple souvent cité par les opposants. Un particulier qui a vécu 20 ans dans son appartement, levant et fait un gain de 300 000 francs, sera-t-il aussi surtaxé? Thomas Bruchet.
Ce qui se passe toujours avec une initiative, c'est effectivement que si elle passe, il y a des possibilités au niveau de la loi d'application pour prendre en compte un certain nombre de problématiques. Et typiquement, sur ce plan-là, ce qu'on pourrait imaginer, pour justement des capitaux qui auraient été détenus sur plusieurs années et qui donc auraient pris de la valeur, qui compte dans le gain en capital, c'est la différence entre la valeur initiale et la valeur de vente pour, par exemple, typiquement un appartement ou une entreprise. Là, typiquement, le Parlement pourrait, dans sa loi d'application, prendre en compte cela et, par exemple, annualiser ces gains et, de la sorte, les comprendre comme si, finalement, ils s'étaient distribués sur toutes ces années. Ce serait peu probable que le seuil des 100 000 francs soit dépassé.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Hubin. À un peu plus d'un mois de la votation, partisans et adversaires de l'initiative 99% sont au coude à coude. 46% de oui contre 45% de non. Les experts estiment que l'initiative sera vraisemblablement rejetée. Le mariage pour tous, lui, devrait passer la rampe d'après les derniers sondages. En Valais, un front uni dit oui au texte. Des représentants du POP Valais, du PSVR, des Verts, d'Entremont Autrement, du CGPCS, des Verts Libéraux Valais et du PLR Valais ont présenté leurs arguments ce matin. Ils estiment que le projet constitue un pas en avant historique et attendu depuis longtemps en faveur de l'égalité pour tous et toutes dans notre pays. Le journalisme culturel occupe une plus grande place dans les médias romands que dans les autres régions linguistiques. 13% des articles parlent de culture en Suisse romande contre 9 en Suisse alémanique et 8 au Tessin, indique une étude publiée aujourd'hui. Si ces chiffres sont stables depuis 2015, les chercheurs constatent une uniformisation croissante des contenus et un effacement de la critique culturelle. Un coup bas pour les artistes qui peinent ainsi à se faire connaître. Le risque que le journalisme culturel se transforme en un bien de luxe que pourront ou voudront se permettre des personnes aisées et éduquées est un risque, note l'étude.
Deux avions transportant près de 230 personnes exfiltrées de Kaboul ont atterri ce matin près de Bruxelles.
Il s'agit des premières arrivées sur sol belge d'un contingent, principalement d'Afghans et de leurs familles, après la prise de pouvoir des talibans. À Kaboul, un échange de coups de feu entre des gardes afghans et des assaillants non identifiés s'est produit à l'aéroport ce matin. Il a entraîné l'intervention des forces allemandes et américaines. Un garde afghan a perdu la vie. Enfin, face au chaos des évacuations, Joe Biden a ouvert la porte à un maintien des soldats sur place au-delà de la date prévue du 31 août. Le président américain a évoqué que des discussions étaient en cours. Une déclaration faite hier soir alors que Londres a annoncé la tenue d'un sommet virtuel demain du G7 pour parler de la situation en Afghanistan. Et en France, la campagne de vaccination contre le coronavirus gagne les collèges et lycées. Tous les élèves de plus de 12 ans qui le souhaitent pourront relever la manche de leur t-shirt. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, dans un entretien au journal du dimanche. Rappelons que la France a retenu un protocole de niveau 2 en vue de la rentrée du 2 septembre. Les cours se feront en présentiel avec un masque obligatoire à l'intérieur dès le primaire et aération des salles forcées. En football, Sherlan Shaqiri va bel et bien poursuivre sa carrière à Lyon. L'arrivée de l'international suisse a été officialisée par le club français sur les réseaux sociaux. Un accord de principe a été trouvé pour le transfert du joueur balois en provenance de Liverpool. Selon le journal L'Équipe, le montant de la transaction serait de 6 millions d'euros sans les bonus. Au bord du Rhône, le milieu de terrain de 29 ans espère retrouver du temps de jeu. Lors des deux dernières saisons, il n'a disputé que 27 matchs, toutes compétitions confondues.
En Suisse, le Lausanne Sport a enfin ouvert son compteur de points en championnat.
Les Vaudois auront dû attendre la quatrième journée de Super League pour obtenir un résultat positif. Devant un peu plus de 6000 spectateurs au stade de la Tuilière, les joueurs du LS ont tenu tête au FC Bâle, l'équipe en forme de ce début de saison. Les deux formations se sont quittées sur le score nul de 2-2. Coupables de nombreuses erreurs défensives jusqu'ici, les Lausannois ont cette fois réussi à capitaliser sur leur jeu de possession attrayant. Le repositionnement d'Hicham Machou dans l'axe de l'attaque n'y est pas sans doute étranger.
Personnellement, je suis à l'aise partout. J'ai la chance d'être polyvalent. J'ai pu jouer à tous les postes. Donc, c'est le coach qui décide. S'il décide de me mettre à deux devant et en attaque, en jouant, comme vous l'avez dit, en pivot, c'est ça? Je le ferai et je sais bien le faire vu que l'année dernière, je l'ai fait aussi. On jouait dans ce schéma-là et j'ai réussi à bien le faire. Donc, ça me pose pas de problème. Georges, c'est un nouveau joueur. Il vient d'arriver. Il a fallu qu'il s'adapte. Mais je pense qu'au bout de encore quelques matchs, ça ira et on trouvera les automatismes facilement.
Hicham Mahou au micro de nos confrères de LFM. Au classement, le Lausanne Sport est désormais avant-dernier à égalité avec le FC Lucerne, balayé 4-1 hier sur le terrain de Servette.
En tennis, la belle semaine de Gilles Teichmann à Cincinnati a été ponctuée par une défaite en finale.
La Biennoise n'est pas parvenue à signer un exploit supplémentaire hier dans le tournoi américain. Après avoir éliminé Naomi Osaka, Belinda Bencic ou encore Karolina Pliskova, la Suissesse est tombée sur un os. Face à l'Australienne Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale, elle n'a pas eu voix au chapitre. La joueuse zélandaise s'est inclinée en 2-7, 6-3, 6-1. Mais si elle n'est pas allée au bout de l'aventure pour cueillir le troisième titre de sa carrière, Gilles Teichmann reste très fière de son parcours dans l'Ohio.
Je suis tellement heureuse et fière de moi, de cette semaine. Bien sûr, aujourd'hui, je voulais gagner comme toujours. Mais quand même, mon adversaire aujourd'hui, il était trop forte. Et voilà, je vais apprendre. Ça me donne beaucoup de la confiance aussi. Et je vais prendre cette confiance pour le reste de la saison.
Des propos recueillis par notre envoyée spéciale aux États-Unis, Helen Scott-Smith. Notez que Jill Teichmann avait reçu une invitation de la part des organisateurs pour participer à ce tournoi de Cincinnati. Grâce à son beau parcours, la Suissesse a gagné 32 places au classement WTA. Elle pointe désormais en 40e position, juste devant la Zurichoise Victoria Golubic.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch.
La météo avec Store Chablais, partenaire Stobag pour vos protections solaires et portes de garage. Storechablais.ch.
À part quelques nuages qui devraient rester crochés sur les crêtes, en dessus de 2000 à 2500 mètres, on devrait profiter du soleil cet après-midi selon Météo Suisse, avec des températures à 24 degrés en pleine, 19 à 1000 mètres et 11 à 2000. Enfin, pour demain, on attend des nuages résiduels en pleine le matin et quelques cumulus sur les crêtes. Le soleil devrait être ensuite de la partie avant de retrouver un risque d'averse isolée en montagne durant la soirée. Pour les températures, entre 12 et 22 en pleine, entre 10 et 19 à 1000 mètres et entre 7 et 12 à 2000. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.